Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous parlerons de la Guinée. C'est la dernière ligne droite avant l'élection présidentielle de dimanche. Alpha Condé, vous le savez, brigue un troisième mandat. L'opposant Seloud Alain Diallo est candidat pour la troisième fois consécutive. Que vous inspire le climat de cette fin de campagne? Nous lançons le débat, d'autant qu'hier, l'opposant Seloud Alain Diallo a interpellé la communauté internationale pour qu'elle condamne, je le cite, les régressions démocratiques en Guinée. Il faut dire que la veille, l'opposant n'a pas pu se rendre à Cancan, fief électoral du président sortant. Il devait tenir sur place un meeting. Son cortège a été bloqué par des militants d'Alpha Condé. Il a donc dû rebrousser chemin. Hier, le chef de l'État, lui aussi en meeting, a dit regretter les violences de dimanche. Alors se dirige-t-on vers un scrutin apaisé? 33 9 693 693 70. Et comme à chaque fois sur la Guinée, vous êtes extrêmement nombreux à souhaiter prendre la parole sur RFI. Donc ne vous inquiétez pas. On fera le maximum évidemment pour que le plus grand nombre d'entre vous puisse s'exprimer. Et je lirai comme tous les matins quelques-uns des nombreux commentaires postés sur Facebook et WhatsApp. Mais d'abord, vos questions à la rédaction de RFI. Des questions concernant cet accord de paix conclu la semaine dernière au Soudan, un accord après 13 mois de négociations. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour Anne, bonjour à tous, bonjour à toutes. Heureux de nous avoir accordé encore cette chance de reposer nos questions de très grandes envergures.
Eh bien écoutez, on vous donne la possibilité tous les matins sur RFI, 8h10, 8h30 temps universel, vos questions à la rédaction, et on se fait évidemment un plaisir de vous répondre. Vous êtes à Kisangani en République démocratique du Congo. Quelles sont vos questions concernant cet accord de paix?
Effectivement, les questions qui nous réchauffent comme le charbon chaud sont les suivantes. Quelle conception ont-elles accordée aux différents groupes lors de la signature de cet accord? Et puis, peut-on espérer que cet accord peut établir la stabilité du Soudan malgré le fait que les deux groupes rebelles aient refusé de le signer. Oui. Les deux questions à la fois.
Effectivement, et la dernière question est pertinente. C'est vrai qu'il y a deux groupes rebelles qui n'ont pas signé cet accord et ce sont tout de même deux mouvements pour le moins influents. Sébastien Lemaitre, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour Jean-Baptiste, qui est très en forme ce matin.
En pleine forme, effectivement, vous aussi, je l'espère, Sébastien Lemaitre, vous êtes le correspondant permanent de RFI dans la région. Il s'agit là donc d'un accord dit historique, un accord qui est censé mettre fin au conflit meurtrier qui ensanglante le Soudan depuis 17 ans. Quelles concessions le gouvernement, les autorités ont-elles accordées aux différents groupes armés?
Alors, elles sont assez importantes, hein, Juan, puisqu'elles vont accorder plus de pouvoir, plus de représentativité à ces groupes armés. Les mouvements vont d'abord obtenir des postes au sein des institutions nationales, hein, par exemple 3 sièges au Conseil souverain, c'est l'organe principal de la transition au Soudan. Ils auront droit aussi à 5 ministères, à 25% du Conseil des ministres, 25% des sièges du Conseil législatif de transition, ça c'est en gros la future Assemblée nationale, ça fait quand même 75 postes sur 300. Donc ils ont obtenu en plus le rétablissement d'un système de gouvernement régional.
Ouais. Et les rebelles se voient aussi accorder du pouvoir à l'intérieur même des régions où ils étaient actifs.
Voilà, au Darfour, par exemple, les groupes armés participeront au gouvernement régional. Les mouvements Darfouri auront 40% du pouvoir, les autres mouvements auront 10%, le gouvernement fédéral 30%, etc. Les rebelles du Darfour vont en quelque sorte accéder à une partie du pouvoir régalien de la défense, puisqu'ils vont former une force conjointe temporaire avec l'armée officielle pour maintenir la sécurité dans la région. Ça comprendra quand même 12 000 hommes. Et en même temps, ces rebelles seront incorporés dans les unités militaires. Donc il y aura une réintégration des combattants. Autre exemple, le sud Kordofan et Nil Bleu, région dans le sud du pays. L'accord prévoit à terme une autonomie pour ces zones. C'est ce que voulaient justement les rebelles. Et là encore, des postes prestigieux leur seront accordés. Le mouvement de Malik Agar, le SPLMN, aura le poste de gouverneur du Nil Bleu et de gouverneur adjoint du sud et de l'ouest Kordofan. 30% des sièges dans les organes exécutifs et législatifs de ces trois régions. Donc vous voyez, Juan, que les rebelles obtiennent quand même beaucoup de points.
Ouais, mais comme le rappelait Jean-Baptiste à Kisangani, à juste titre d'ailleurs, deux mouvements rebelles n'ont pas participé aux négociations. Est-ce que ça ne remet pas en cause tout de même la pérennité de cet accord de paix?
Alors, c'est vrai qu'il y a deux groupes qui n'ont pas signé, le SLM d'Abdelwahid Al-Nour et le SPLM d'Abdelaziz Al-Hilou. Alors, est-ce que le pays va être stable sans eux? Bon, j'aurais tendance à dire non, en tout cas pas totalement, parce que ces deux mouvements sont quasiment les seuls à encore contrôler du territoire soudanais, avec des combattants sur le terrain. L'instabilité est d'ailleurs toujours importante, hein, notamment au Darfour, particulièrement dans la zone du Djebel Mara. D'après l'ONU, il y a eu une cinquantaine d'affrontements armés et plus de 100 morts ces trois derniers mois. C'est une tendance en plus à la hausse. Et pour ce cas précis, les violences sont essentiellement entre l'armée et les rebelles du SLM Al-Nour, dont je viens de parler.
Ouais, il y a tout de même des efforts pour amener ces rebelles à la table des négociations. On l'a encore vu il y a une dizaine de jours.
Absolument, surtout d'ailleurs avec le groupe Al-Hilou. Leur chef a rencontré le Premier ministre Hamdok Adjouba, donc il y a une dizaine de jours, vous l'avez dit. Ils se sont mis d'accord pour relancer le dialogue. Deux jours plus tard, ce sont les FFC, le mouvement civil à la pointe de la révolution, qui a rencontré ce même chef rebelle Al-Hilou. Ils vont former un mécanisme pour lever les obstacles empêchant le groupe rebelle de rejoindre le processus de paix. Je cite le communiqué. Et finalement, Pouvoir et Al-Hilou se sont mis d'accord pour que le dialogue reprennent officiellement la troisième semaine d'octobre, donc très bientôt. Ça avance petit à petit. La semaine dernière, il y a même eu une importante avancée symbolique. Al-Hilou lui-même a rencontré Emeti. Emeti, c'est le numéro 2 du Conseil souverain. C'est le chef des milices paramilitaires RSF. C'est un ex-dirigeant des Janjaweed qui ont commis des exactions au Darfour. En février, Al-Hilou avait claqué la porte du dialogue, en partie parce que justement Emeti était dans l'équipe de médiation du pouvoir. Et vous voyez, la semaine dernière, il lui a serré la main. Donc les relations évoluent, on va dire. Par contre, l'autre mouvement, le SLM Al-Nour, lui, il veut toujours pas négocier tant que le Darfour n'est pas stable.
Oui, poignée de main, d'ailleurs, à voir sur le site RFI. Jean-Baptiste, a-t-on répondu à vos questions?
Oui, parfaitement. Merci à vous, Anne. Merci à Sébastien. Et nous espérons, bien sûr, que cet accord de paix va faire avancer le pays. Et nous vous souhaitons une très bonne journée là-bas à Paris.
Merci et bonne journée à vous, à Kisangani, en République démocratique du Congo. Merci, Sébastien Nemeth. Olivier Roger, du service éco de RFI, est avec nous ce matin. Olivier Roger, bonjour.
Bonjour, Juan.
On vous a demandé de venir car on a des questions concernant une enquête publiée il y a quelques jours par la Banque mondiale. Bonjour.
Bonjour Juan, bonjour Appel sur l'actualité.
Vous êtes à Brazzaville, soyez le bienvenu.
Oui, oui, je suis à Brazzaville et j'aimerais poser des questions sur... vu que selon une étude, la pandémie de Covid-19 va se précipiter dans l'extrême pauvreté entre 88 et 115 millions de personnes supplémentaires pendant cette année. A annoncé la semaine passée la Banque mondiale. Alors, ce faisant, j'aimerais savoir quel est le profil de ceux qui seront touchés par cette vague d'extrême pauvreté et quelles zones seront les plus touchées.
Alors, Olivier Roger, cette année 2020 aurait dû être marquée par une nouvelle réduction de l'extrême pauvreté dans le monde. Il y a eu cette pandémie de Covid-19 qui a tout chamboulé. Quand on parle d'extrême pauvreté, il faut quand même rappeler que une personne vivant avec moins d'un dollar 90 par jour est considérée comme vivant dans l'extrême pauvreté. C'est bien de rappeler ce chiffre, comme ça on l'a bien en tête. Qui sont ce qu'on appelle ces nouveaux pauvres? Est-ce qu'on a un profil type?
Alors, je serais tenté de dire que les plus touchés sont d'abord les plus fragiles, c'est-à-dire les gens qui travaillent sans contrat dans des pays où les systèmes de protection sont inexistants, voire très faibles. C'est assez logique, il vaut mieux être fonctionnaire à Berlin plutôt que vendeur de rue ou mécanicien à Karachi. Alors, une fois qu'on a enfoncé les portes ouvertes, si on regarde un peu dans le détail, la zone la plus touchée par ce regain de pauvreté sera l'Afrique, qui pourrait comptabiliser en fin d'année 40 millions de pauvres en plus, soit près de un tiers du total. Pourquoi? Parce que l'Afrique est déjà le continent qui compte le plus grand nombre de personnes pauvres et donc fragiles, et donc le plus grand nombre de personnes susceptibles de basculer dans l'extrême pauvreté. Après, si l'on affine un petit peu plus le raisonnement, on voit que les pays en Afrique qui sont les plus touchés sont d'abord ceux qui n'ont pas pu diversifier leur économie et qui sont dépendants des matières premières. Mali, par exemple, doit savoir que dans son pays, le pétrole est une dépendance extrême de la part du gouvernement. C'est le même cas en Angola. Et bien évidemment, les gouvernements, quand le pétrole chute, les cours du baril s'effondrent, les gouvernements ont moins de marge de manœuvre pour aider les gens. Les pays qui sont aussi très touchés sont ceux qui ont une forte spécialisation, comme par exemple ceux qui ont une spécialisation touristique. Je pense au Maroc ou à la Tunisie, qui ont vu cette activité touristique quasiment arrêtée depuis ces derniers mois. Ce sont des centaines de milliers d'emplois qui ont disparu. Paradoxalement, pourtant, en Afrique, on peut dire que les pays agricoles s'en sortent un peu mieux, car la demande pour les produits agricoles a continué de progresser.
Ouais, vous aviez une autre question, Molly ?
Oui, effectivement, Ron. Cependant, est-il possible d'éviter ce scénario ? Dans ce cas-là, comment agir ?
Est-ce que c'est trop tard, Olivier Roger ?
Alors non, c'est jamais trop tard, c'est pas trop tard. Bien évidemment, le choc a eu lieu. Maintenant, il faut savoir comment l'atténuer. L'atténuer, c'est le travail des pays riches, de la Banque mondiale, du FMI, qui ont tenté de mettre en place pour les pays les plus pauvres des sources de financement afin de surmonter cette crise sociale. On peut rappeler un chiffre. Cette année, le FMI va octroyer au total 26 milliards de dollars à l'Afrique, sans compter les remises de dettes et les moratoires de dettes du G7. 26 milliards de dollars, c'est 10 fois plus qu'en temps normal. Et cet argent doit servir en partie à mettre en œuvre des mesures de protection sociale, des exemptions de taxes, des distributions d'argent aux populations dans le besoin, voire même des achats de vivres. Relancer la machine, là c'est le travail de la Banque mondiale plus spécifiquement, qui verse actuellement des fonds aux pays qui ont besoin d'investir dans l'économie, alors soit pour diversifier les économies, ce dont on parlait tout à l'heure, soit pour la moderniser à travers notamment tout le discours sur le numérique. Et il faut savoir que les institutions de Bretton Woods actuellement disent ceci: la meilleure façon de relancer les économies dans le monde et en Afrique, c'est d'investir dans les appareils productifs pour créer de l'emploi.
Et on investit ou pas en ce moment ?
Alors on recommence à investir dans certains pays, à telle enseigne que le FMI et la Banque mondiale sont plutôt optimistes pour la fin 2021 et 2022, où on prévoit un retour à la croissance et donc un recul de la pauvreté.
A-t-on répondu à vos questions, Molly ?
Oui, merci Juan, mais on sent déjà cette pauvreté, là, on la sent déjà.
Vous la constatez dans votre vie quotidienne et dans votre entourage.
Oui.
Ouais. On aura l'occasion d'en parler la semaine prochaine. Il y a un sommet du G20, je parle sous le contrôle d'Olivier Roger, sommet du G20, et il sera évidemment question de la situation économique, financière et de la pauvreté dans le monde en cette période de Covid-19.
Et notez aussi la date du 20 novembre où RFI consacrera une journée spéciale sur ces questions de pauvreté et sur la façon de remédier à cette pauvreté, parce que bien évidemment, il y a beaucoup de gens qui mènent des initiatives pour combattre les effets pervers et les effets économiques pervers de cette pandémie. Donc rendez-vous le 20 novembre sur l'antenne de RFI.
C'est noté, Olivier Roger, merci. Bonne journée à vous. Merci Molly de nous écouter à Brazzaville. Il est 10h23 ici à Paris. Ce sont vos questions à la rédaction de RFI. 33 9 693 693 70. Stanislas nous a contacté d'Alada, c'est au Bénin, à 50 km de Cotonou. Bonjour Stanislas.
Bonjour Juan, bonjour la radio.
Bienvenue, nous vous écoutons. Quelles sont vos questions ?
Ok. L'AFCRA a retiré le Bénin de la liste des pays d'origine sûre pour une durée d'au moins un an. Comment l'AFCRA justifie-t-il son choix ?
Ah, bonne question, effectivement. Vous avez été quelques-uns à nous appeler du Bénin pour en savoir davantage sur les motivations de l'Office français des réfugiés et apatrides. Sylvie Coffi, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour Stanislas.
Journaliste au service France de RFI. D'abord, expliquez-nous ce qu'est un pays d'origine dit sûr.
Alors donc c'est un pays qui respecte les principes de liberté, de la démocratie, de l'état de droit, ainsi que les droits humains et les libertés fondamentales. Le Bénin depuis 2015, donc depuis 15 ans, était inscrit sur cette liste et était considéré comme un pays respectant l'alternance démocratique. Il faut dire que le statut de réfugié était accordé aux Béninois était très faible, environ 184 personnes.
184 personnes par an.
Voilà.
Donc moins de 200 personnes par an étaient concernées par ce statut.
Voilà. Aujourd'hui, cette liste qui compte à présent 16 pays à travers le monde, avec le retrait provisoire du Bénin, il n'y aura plus que 15 pays.
Ouais. Depuis l'année dernière, en tout cas, le Bénin était dans le collimateur de l'OFPRA. Pourquoi l'Office français des réfugiés et apatrides a donc décidé de retirer le Bénin de cette liste des pays considérés comme sûrs ?
Alors, c'est notamment depuis les législatives d'avril 2019 et à quelques mois de la présidentielle de 2021, l'opposition dénonce une dérive autoritaire et une restriction des libertés, notamment au niveau de la presse. Une autre raison évoquée, c'est la question de la prévalence de la pratique de l'excision, notamment au nord du Bénin. La loi prévoit depuis 2015 que les personnes persécutées en raison de leur genre doivent être protégées.
Ouais.
Donc l'OFPRA avait déjà annoncé que le cas du Bénin serait réexaminé.
Stanislas, Vous avez une autre question,
oui,
il me semble.
Oui, une deuxième question est la suivante. Et qu'est-ce que cette décision de l'OFPRA va changer pour les demandeurs d'asile béninois?
Alors, d'abord, expliquez-nous, Sylvie Coffi, dans le cas d'un ressortissant qui provient d'un pays d'origine dit sûr, comment sa demande d'asile est-elle traitée?
Alors, en fait, la demande est automatiquement placée en procédure accélérée ou prioritaire. L'OFPRA va étudier dans un délai de 15 jours, donc de manière beaucoup plus rapide, et je mets des guillemets, bien sûr. En effet, dans sa logique, l'OFPRA considère que ces pays dits sûrs sont donc démocratiques et qu'ils respectent les droits humains. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant toute la procédure, le demandeur d'asile est limité dans ses droits. Il n'est pas admis sur le territoire au titre de l'asile. Mmh. Le recours, notamment auprès de la CNDA, est beaucoup plus difficile parce que la décision donc du demandeur d'asile, ce recours n'est pas suspensif, ce qui signifie qu'à tout moment, il peut être reconduit à la frontière.
Qu'est-ce qui va changer donc pour les ressortissants béninois concrètement à partir de maintenant?
Ce qui va changer, c'est que les demandes d'asile sont placées en procédure normale. Elles bénéficient donc d'un examen complet, et je mets encore des guillemets, de la part de l'OFPRA. L'OFPRA qui, avant de rendre sa décision, va mettre environ 6 mois, voire plus.
À suivre donc. Merci infiniment d'être venu. Sylvie Coffi, bonne journée à vous. Bonne journée à Stanislas qui nous appelait d'Alada. Il nous reste 3 minutes 30 pour accueillir Olsen de Brazzaville et Sylvie Brunel. J'accueille d'abord Sylvie Brunel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géographe, ancienne présidente d'Action contre la faim et vous avez publié récemment aux éditions Buchet-Chastel « Pourquoi les paysans vont sauver le monde ». Nous vous avons contacté car Olsen de Pointe-Noire a des questions à vous poser concernant le prix Nobel de la paix 2020. Bonjour Olsen.
Bonjour Juan.
Nous vous écoutons.
Le prix Nobel de la paix 2020 a été attribué au Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Certaines zones sont toujours malnutries et l'objectif établi par l'ONU d'éradiquer la faim d'ici à 2030 semble hors d'atteinte, selon certains experts. Mmh. Dès lors, comment expliquer cette récompense? Et quelles réalisations du PAM ont particulièrement retenu l'attention du jury du Nobel?
Sylvie Brunel, ces 4 dernières années, le nombre de personnes en insécurité alimentaire a bondi de près de 70%. Comment expliquer donc le choix du comité Nobel?
Ben justement, Olsen, si le prix Nobel de la paix a été attribué au Programme alimentaire mondial, c'est à la fois pour remettre la faim à l'agenda du jour et pour remettre aussi le multilatéralisme parce que, vous le savez, il est aujourd'hui battu en brèche. Le Programme alimentaire mondial, c'est une organisation des Nations Unies qui mène un travail absolument admirable dans les zones de guerre, qui arrive à acheminer de l'aide là où personne ne va. C'est une organisation qui soutient aussi les petits paysans en leur achetant leur nourriture, ce qu'on appelait avant de l'aide triangulaire. Donc, de la part du jury du prix Nobel, c'est une façon de dire, attention, les questions essentielles restent entières, la faim n'a pas été éliminée, au contraire, le Covid l'a remise à l'ordre du jour, la sécurité alimentaire mondiale, ça doit rester une priorité. Bien sûr, c'est d'abord de la responsabilité des États, c'est à eux de mettre en place des mécanismes de souveraineté et de sécurité alimentaire, mais c'est bien qu'une grande organisation humanitaire des Nations Unies fasse le job dans les situations d'urgence.
Oui, il en va de la responsabilité des États. On rappelle que le PAM a besoin d'être financé, hein, et pour l'instant, le PAM dépend surtout de la solidarité, de la volonté de chaque État. Olsen en parlait à l'instant, et on a quelques secondes devant nous, Sylvie Brunel, il parlait de cet objectif de l'ONU, éradiquer la faim d'ici à 2030. Est-ce réaliste?
Alors, ça serait possible, c'est-à-dire qu'on sait exactement comment on élimine la faim. Certains pays avaient réussi vraiment des objectifs remarquables, le Rwanda, certains pays d'Amérique latine, mais le problème, c'est que la crise sanitaire est venue remettre tout effacé parce que les populations pauvres ont perdu leurs revenus. Beaucoup d'ailleurs disent dans le monde entier, nous préférons le virus à la faim. Mmh. Quand vous êtes confinés, quand les chaînes logistiques s'arrêtent, quand vous ne pouvez plus vendre vos produits, eh bien vous êtes confrontés à des épidémies de faim et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et d'ailleurs, dès le mois de mars, le Programme alimentaire mondial nous alertait sur ce risque qui s'est malheureusement réalisé.
Merci infiniment Sylvie Brunel d'avoir pris quelques minutes ce matin pour répondre à Olsen de Pointe-Noire, Sylvie Brunel, ancienne présidente d'Action contre la faim et géographe. Bientôt 8h30 en temps universel, on va retrouver l'ensemble du service Afrique de RFI pour la dernière édition d'Afrique Matin.